Ce jour est dédié pour la leçon de l'âme de Karen Rutlen, Zichrona Livracha. La question de Yosef.
Est-ce qu'on peut réfléchir par rapport à une faute? Est-ce qu'on peut réfléchir en disant qu'on va l'arrêter progressivement? Ou est-ce qu'on doit arrêter du jour au lendemain? Est-ce que ça a vraiment un impact et un effet aux yeux de Dieu de se dire qu'on va arrêter progressivement une guerre?
Inutile de dire que Dieu est intelligent. Et il comprend qu'il n'est pas possible qu'une personne qui a une prise de conscience de l'importance de la Torah, qui est très loin dans la pratique, du jour au lendemain pratique tout, du jour au lendemain. C'est pas possible, c'est humainement pas possible. Mais néanmoins, Dieu aussi est juste. Et on peut avoir une tentation de se dire, bon, Rav Shai a dit dans le cours là qu'on ne peut pas aller tout d'un coup, donc j'y vais mollo. Mais il y va très mollo. Il faut être le plus juste possible et faire le maximum qu'il nous est possible de faire. Mais intelligemment. C'est vrai que si on va beaucoup trop vite, des fois il y a un retour de manivelle. Ça ne vous concerne pas trop vous, parce que des jeunes gens de votre âge, donc on va dire entre 18 et 22, 23, 24, on peut d'un coup faire tchouva, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas... on va dire en quelques semaines, il y en a qui exagèrent. J'en ai un élève qui est venu une fois, après trois jours déjà, il mettait des péotes et la tête et la boule à zéro. Ça, c'est pas des trucs. Et un mois après, il était dehors, il a quitté la yeshiva, il est reparti, je sais pas où il est arrivé, d'accord, aujourd'hui, c'est encore juif. Ça, c'est des choses exagérées. Mais disons, de passer de non-pratiquant à pratiquant sur manger cachère, faire sa prière, ce qu'il sait, faire Shabbat, etc., arrêter de fréquenter des filles, c'est le basique. On peut le prendre dans l'âge de la jeunesse, en quelques jours, ça peut être réglé, même en une seconde. Quand on est déjà plus encroûté par l'âge, d'accord, ça devient beaucoup plus dur. Et là, c'est légitime d'aller de façon progressive. Maintenant, encore une fois, Dieu voit bien les choses. Et c'est vrai qu'il ne faut pas aller trop vite, mais non plus pas trop lentement. Pas se dire maintenant, Dieu comprend que je n'arrive pas. Et... S'il comprend, oui, mais pas toujours, il comprend comme nous on comprend. D'accord ? Des fois, il voit bien que tu as beaucoup de Sarah, beaucoup de paresse, donc il faut essayer d'avancer. Donc, d'où j'apprends qu'on peut faire les choses de façon progressive, une histoire d'un des plus grands rabbins, ou peut-être le plus grand rabbin du peuple d'Israël, il y a environ, on va dire, 150 ans. Il s'appelait le Rav Israël Misalant. Ça veut dire Rav Lipkin, son vrai nom, c'est Rav Lipkin de Salant. On l'appelait Rav Israël Salanter, de Salant. Il était un génie de Torah, très très grand, et c'est lui qui a lancé le mouvement du Moussar. Ça veut dire qu'il a dit qu'il fallait insérer dans les chivotes tous les jours 20 minutes de Moussar. C'est un grand tollé général dans le monde des chivotes, parce que les rabbins ne disent jamais quoi, 20 minutes de moussard, on peut étudier une page de Gemara, 20 minutes ça fait du bitou Torah, c'est pas suffisamment Torah. Aujourd'hui, tout le monde a compris et a reconnu, mais donc, la grande bagarre a lieu à cette époque-là. Et vers la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Israël? Ça l'intéresse, il a commencé à faire du kirouv. Il s'est dit sûrement que j'ai un grand la génération et que... Il y a des gens qui commencent à s'assimiler, à quitter la Torah lentement, il faut aller tout faire pour les repêcher. Il est parti où? On raconte qu'il est parti 10 ans en France. Personne ne sait ce qu'il a fait là-bas, il a fait du travail en douce, en France. Il a dit sur Paris que c'est une ville où il y a beaucoup de crainte de Dieu. Et que chaque personne qui arrive à Paris, quand il repart, toute la crainte de Dieu est partie, il l'a laissé là-bas. Donc tous ceux qui vont là-bas, ils laissent leur crainte de Dieu. Et c'était il y a 150 ans à Paris. Alors on dit qu'un jour il est allé à Hambourg. Hambourg, un port, et là-bas, la communauté juive était religieuse, mais business is business, Shabbat, il y a les arrivages de bateaux, et ils venaient à la synagogue, les bons juifs, faire leur prière, après ils partaient rapidement au port pour recevoir les arrivages, et plus de Shabbat, plus rien du tout. Et un jour, on lui a demandé, est-ce que vous voulez faire une dracha? Il dit, est-ce qu'il y a des gens qui viennent, qui sont hors de la ville, qui viennent de hors de la ville? On dit, oui, hein, monsieur qui vient. Bon, là, je parlerai une autre fois. Semaine d'après, vous voulez parler, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient hors de la ville? Non. Alors là, il est monté sur l'estrade, il a commencé à parler. Il a dit, écoutez, j'ai bien étudié votre métier, tout ça. Il y a 39 travaux de Shabbat, comme vous le savez. Il y a un métier, il y a une melacha, un des actions de Shabbat qui est interdit de faire, qui n'est pas nécessaire dans votre métier. Shochet, égorger. On n'a pas le droit d'égorger Shabbat un animal. On n'a pas le droit de tuer un animal. Bon, vous recevez les bateaux, il faut décharger, il faut écrire, il faut machin, mais il ne faut pas égorger l'animal. Il n'y a pas. Donc on va prendre sur nous maintenant toute la communauté de Hambourg. On prend sur nous maintenant, il y a 39 travaux. Ok, 38, on ne peut pas les faire, on ne peut pas les respecter, mais un, on peut respecter. On prend sur nous tous, on ne fait plus de shochet Shabbat. On n'égorge plus personne Shabbat. Plus personne, plus de. On n'égorge plus d'animaux, personne. On ne peut pas écraser un moustique, ça revient au même, d'accord, faire attention. Faut pas tuer. D'animaux au Shabbat. Ils ont accepté. Semaine d'après, on dit, écoutez, j'ai encore vérifié, il y a une deuxième chose que vous pouvez ne pas faire, planter. Vous savez, les arrivages de bateaux, tout ça, on descend à la marchandise, mais planter, personne ne plante dans le port. Alors on prend sur nous toute la communauté maintenant, on arrête de planter. À faire planter, c'est-à-dire arroser aussi, saver les mains sur l'herbe, tout ce qui peut être avoir une relation avec le fait de planter. Ils ont accepté. Troisième Shabbat, ils prennent troisième Melacha. Et lentement comme ça, il arrivait à 37. Il manquait encore une ou deux, les plus dures, à écrire, je sais pas, allumer la lumière, des choses comme ça. Et une fois que déjà Shomer Shabbat sur 37 Melachot, rajouter encore deux, c'est possible. Donc il n'aura pas fait un programme, messieurs, ça ne va pas du tout. Dès Shabbat prochain, on fait tous les 39 Melachot, on a tous Shomer Shabbat. Ça n'aura pas tenu le coup. Il a été en douce. Maintenant, pourquoi il a demandé qu'il y ait personne, est-ce qu'il y a une personne qui est hors de la communauté? Parce qu'il ne voulait pas qu'on sache que le grand de la Torah, que les gens comprennent tout tordu. Le rabbi est autorisé de faire 38 travaux. Le rabbi Israël, ça l'intéresse, il dit qu'il n'y a que Shochet qui est important, le reste, on peut baser. Donc il ne voulait pas, et les gens traduisent toujours un peu autrement. Le rabbi Yosef, il y a 50 ans, il y avait ici, il y avait une mode ici terrible en Israël de mini-jupe. Des mini-jupes. Alors, il lui donnait une émission à la radio le vendredi après-midi. On posait la question, qu'est-ce qui est plus grave, une mini-jupe ou un pantalon? Alors il a écrit toute une chouva, toute une réponse là-dessus, et il a expliqué à la radio, il dit que la mini-jupe est plus grave que le pantalon. Le lendemain, tout le peuple d'Israël a dit, le rabbi Yosef, autorise les pantalons, c'est permis, on peut mettre des pantalons. Il n'a jamais dit ça, il a dit, si tu as le choix entre du cochon et du chameau, mieux vaut du chameau que du cochon, d'accord? Mais c'est pas dire que le chameau, il est cachère, les gens comprennent très souvent mal. Donc c'est très délicat. Il est clair, comme j'ai dit, comme je commence à dire, Dieu est intelligent. C'est la moindre des choses qu'on puisse dire, d'accord? Donc il comprend qu'on ne peut pas faire tout à la fois, du premier coup. Mais faites attention, parce que très très souvent, on profite de cette soi-disant intelligence qu'on comprend que Dieu a, pour se dire qu'on peut y aller mollo-mollo, et ce n'est pas le cas. D'autant plus que, comme vous le savez, il est écrit que celui qui dit « je vais pécher, après je fais tshuva, après je ferai tshuva », on l'empêche de faire tshuva. Le Rambam écrit 24 choses qui empêchent la tshuva. Alors il est vrai qu'il dit qu'à la fin, en conclusion, il dit « ces choses-là empêchent la tshuva, mais ne l'empêchent pas complètement ». C'est-à-dire que si quelqu'un fera vraiment, vraiment tshuva, alors il peut faire tshuva et elle est valable. On rend du ciel, lorsque tu t'entêtes à continuer dans un péché, en projetant que, bon, c'est en attendant que, mais bientôt de faire tshuva, on l'empêche de faire tshuva. Donc, si quelqu'un, on va dire, son programme progressif, il est vraiment légitime, parce que Dieu qui va scanner le cœur voit qu'il ne peut pas faire autrement, alors Dieu va l'aider. Mais s'il profite de cette soi-disant légitimation qui n'en est pas une, d'aller en progressif, on va l'empêcher. Et puis le progressif devient la stagnation. Et quand on stagne, au bout d'un moment aussi, on coule. D'accord? Donc il va rester des années au même stade. Oui, j'avance lentement, très lentement. Je suis en pleine tshuva depuis 10 ans. D'accord? Il y a des gens comme ça qui sont bloqués, bloqués à mi-chemin.
On reçoit tous les bancs de notre vrai Kavana quand on c'est va cacher à Kavana pourquoi, apparemment. Je veux dire, laisse-moi un peu de temps, je fais la faute, là, je suis en plein dans la.
T'as dit un truc très vrai, t'as dit, il faut être vrai, il faut être authentique. Et moi, je commençais à penser maintenant sur le mi-chemin, d'accord, que ça, quelqu'un s'arrête à mi-chemin. Le pire, c'est le moitié-moitié. On dit, c'est une moitié blague, moitié vrai. On va dire, c'est une blague, mais l'enseignement est absolument vrai. On dit que sur Rivka, quand elle était enceinte, je ne sais pas qu'elle avait des jumeaux. Et c'est parce que lorsqu'elle passait près d'une synagogue, alors le ventre se mettait à trembler. Lorsqu'elle passait près d'un temple d'Avodah Zarah, d'idolâtrie, son ventre se mettait à trembler. Alors elle n'a pas compris ce qui se passait. Alors on lui a dit, tu as des jumeaux. Ah, ça va. Ça va. Mais à moitié, une personne, j'avais un seul enfant qui veut et ça ne va plus. Ça ne va plus. Et là, c'est un problème d'ailleurs très, très français. Ça me permet de dire, il y a beaucoup de juifs qui font Shabbat, ils vont en synagogue, après ils vont en boîte, d'accord? Ils vont à la synagogue de Jean Lépin. J'ai rien contre Jean Lépin, mais en été, je veux dire, il y a d'autres endroits à fréquenter, d'accord? Il y a beaucoup de gens en France. Pourquoi? Pourquoi je dis en France? Parce qu'en France aujourd'hui, on peut dire que la grosse, immense majorité de juifs sont sfarades. Sfaradim, Baruch Hashem, ils sont ceux qui sont même non religieux, ont vu encore des religieux dans leurs ancêtres il n'y a pas trop longtemps. D'habitude, le grand-père et grand-père étaient religieux. Vos frères Ashkenaz, ils ont subi la grande vague d'assimilation il y a déjà 150 ans. Donc ceux qui ont quitté la Torah, c'était déjà, il y a belle lurette. Et leurs enfants, arrière-arrière-petits, sont encore juifs, s'il y en a, il y en a quelques-uns encore par-ci par-là, ils sont où? En Israël ou en Amérique? Mais ces gens-là, d'habitude, en Israël, Amérique, ils sont Ashkenaz, loin de Torah, ils sont très, 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 très loin de Torah. Mais rien! Rien de rien! Ou bien, ils sont complètement froums. C'est noir, barbe, machin, la totale, d'accord? Il y a des moitiés-moitiés aussi en Israël, en Amérique, mais beaucoup moins qu'en France. En France, le peuple juif, on va dire, qu'on définit et identifie en tant que juif, il est majoritairement sfarade et moitié-moitié. Il est à la fois dans les tzadikim, Rabbi Chaim Pinto, Baba Saleh, c'est des trucs cadeaux, d'accord? Israël, on est amoureux d'Israël, Natania, Elat, oui, ok, Israël, le Kotel, voilà, c'est un peu mélangé comme ça, mais c'est des bons juifs qui ont une foi en Dieu, ils font le kiddush, après ils vont en boîte, mais ok, ils ne mangent pas de porc, mais ils mangent un McDo fish, d'accord? Il y en a qui vont la juive, pas la goya, non, la goya pour respecter la juive, d'accord? Chacune avec la goya, mais même pas la juive, chacun. C'est un moitié-moitié. Et ça, quelque part, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement se conforter dans cette situation, dire « Oh, moi, je suis un bon juif. Bah, je ne suis pas un super religieux, mais je suis un bon juif. Je fais de mal à personne. » Quelqu'un qui est dedans complètement, ok, ça va. Quelqu'un qui est complètement dehors, s'il sait qu'il est juif, il sait qu'il est en situation non conforme. Il n'est pas ok. Donc, il a beaucoup de chances de faire tchouva. Quelqu'un qui est à moitié-moitié, et qui se conforte dans cette situation, eh bien, je suis bien comme il faut. Et ça, c'est le pire. Parce que c'est tout à fait non cohérent. Qu'est-ce que tu vas donner maintenant à tes enfants comme modèle? Le gosse, il voit un papa qui ment. Ça ne se dit pas de façon aussi crue que je le dis, mais c'est exactement le message qu'il reçoit. Le message de vérité de Dieu, il n'est pas vrai. C'est-à-dire, on peut faire ce qu'on veut. Ça, on fait. Ça, on ne fait pas. Ce qui nous arrange. Pourquoi un juif français, tel que j'ai décrit auparavant, il fait une partie de Torah? Pourquoi il fait? Parce qu'il a une partie en lui qui est attirée par cela. Il a reçu ça de ses grands-parents, de ses parents, l'éducation peut-être dans l'école juive. Donc il a un bagage qui fait que pour lui, c'est pas question de manger à Kippour. Pas question de manger du porc, la histoire, d'accord? En parenthèse, Shabbat, c'est bien plus important que Kippour. Ou que le porc. Bien plus important. Entre le porc, Kippour et Shabbat, pour le moins grave, après Kippour, après Shabbat. Shabbat est bien plus important. Les gens font tout à l'envers. Donc, la personne se conforte dans une situation qui est non cohérente. Et quel message il donne à ses enfants? Qu'on fait ce qu'on a envie. Ça veut dire, une partie de moi a envie d'être attaché à mon patrimoine juif, je m'identifie en tant que juif, une partie, bon, faut pas pousser, hein, lentement. T'as vu la fille, t'as vu la boîte, t'as vu qu'est-ce que j'en sais moi, Jean Lépin, etc. D'accord. Chacun avec son type de yetzerara. Et on fait un mélange pareil qui dit le message qui est exprimé par cela, ça veut dire avec Dieu, on s'arrange comme on a envie. j'ai envie une partie, j'ai pas envie une autre partie, je fais ce que je veux. C'est beaucoup moins cohérent que le type qui est dehors. Le type qui est dehors qui fait rien, il fait rien, bon ok, il croit pas. Pour lui, c'est faux. Faux, ça va. Si c'est vrai, comment je peux faire une chose qui n'est pas vraie? Dieu qui m'a créé, le maître du monde, le maître de tout, Hachem Echad, un, c'est-à-dire un, il n'y a rien qui lui échappe, c'est lui qui maîtrise tout de A à Z. Il m'ordonne. Et moi, je lui fais comme ça. J'ai pas envie. C'est absolument incohérent. Et c'est le message qu'on donne aux enfants. Alors pour toi maintenant, ça sera quoi ton Shabbat? Ton Shabbat, c'est faire le kiddush, après regarder la télévision. Mais chas shalom, je vais pas aller en boîte. Ton gosse, il dit quelle différence entre la télévision et la boîte? Dans le principe, aucune. C'est à moitié-moitié. Toi, ton moitié-moitié, c'est télévision qui douche. Moi, mon moitié-moitié, c'est boîte qui douche.
Limiter les dégâts.
Pardon?
Limiter les dégâts.
Tu limites le parent, il limite les dégâts, c'est vrai, c'est bien. Mais le gosse, le parent, pourquoi il a mis la limite entre le dégât et ce qui est bien? Ce qui est bien, qui douche, et ce qui n'est pas bien, télévision. Il y a la limite entre les deux. Et moi je plus loin que télévision, je ne vais pas. Mais télévision, j'accepte. D'accord? Parce que ça l'arrange. Son vrai critère de dire télévision, oui, mais boîte, non, parce que ça l'arrange de ne pas être trop loin de la religion. Ça l'arrange pas d'être complètement froum, complètement religieux. Ça l'arrange d'être, mettre la limite entre la télévision et la boîte. Donc boîte, non, télévision, oui. Son fils pose la question. Tout ça ce sont des non-dits, hein. C'est pas que ça s'explique pas, mais c'est les messages éducatifs qui sont transmis. Le gosse dit, pourquoi papa il a mis ça là? C'est pas parce qu'on a Torah que télévision, oui, et boîte, non. Parce que ça l'arrange. Ça l'arrange. Ok. Donc moi, je comprends qu'on peut faire ce qui nous arrange. Moi aussi, ça m'arrange d'être religieux un peu. Donc je fais la brit mila à mes enfants, je fais aussi le kiddush, mais le vendredi soir, je vais en boîte. Il met la limite déjà plus loin. Tac. Son gosse, il dira, papa il va en boîte, il fait le kiddush, mais il touche pas à une goya. Ben moi, quand je vois Christine... Ça m'arrange. Papa, ça l'arrange pas. Moi, ça m'arrange. On a tous le même critère. Tous, on a le même critère. Ça m'arrange. C'est là que ça m'arrange. Donc, un moitié-moitié, comme a dit Rivka dans cette bague qui n'en est pas une, elle a dit, moi, je veux bien quelqu'un qui est complètement dans l'idolâtrie ou quelqu'un qui est complètement dans la Torah. Ça, on peut encore faire avec. Mais un moitié-moitié, comment je peux gérer ça? Je lui dis, t'es faux. Il me dit, non, je suis un type bien. Mais ça va pas, t'es pas cohérent. Bon, ouais, faut pas pousser. Faut pas pousser. C'est quoi ça? On appelle quelqu'un qui fait toute la Torah un intégriste.
Extrémiste.
Oui. Et bon, on va dire intégriste, on va dire intègre. C'est un type droit, intègre. La Torah dit, je fais. Ensuite, c'est un extrémiste de quoi? Oui, extrémiste. Extrémiste de la vérité. Extrémiste du bien. Extrémiste de ne pas faire ce que j'ai envie parce que j'ai envie, c'est tout. Extrémiste de faire ce qui est juste de faire. Et pas faire ce qui est faux de faire. Oui, extrémiste. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça? Extrémiste dans le bien? C'est le message que Dieu nous a demandé. Lorsqu'on arrive au Mont Sinaï, avant les 10 commandements, Dieu envoie, c'est le 4e jour, je crois, on a reçu le 4e jour après qu'on arrive au Mont Sinaï, on a reçu la Torah le 6e jour, le 4e jour, Dieu envoie Moshe Rabbeinu dire au peuple d'Israël, Tiyuli, Mamechet Kohanim, Vegoshkal, vous serez un peuple de princes, un royaume de princes, Mamechet Kohanim, un peuple de princes, Vegoy Kadosh, et un peuple saint. Un peuple saint. Avant qu'on soit les 10 commandements. Le premier message que Dieu nous écoute, voici le programme en gros. Je veux de vous que vous soyez un peuple saint. C'est quoi saint? Saint, ça veut dire pas attiré par les plaisirs de ce monde, branché avec Hachem. On doit travailler, on doit se marier, on doit manger, on doit avoir une maison, etc. Mais tout ça, ce sont que les moyens. Ce n'est pas des buts en soi. Le but saint, ça veut dire Hachem. On est un peuple de spiritualité. C'est ça, Israël. Donc quelqu'un qui dit oui, mais moitié-moitié, est déjà hors du coup. Il n'est pas dans ce que Dieu veut. Alors je ne dis pas qu'on doit être des ermites. C'est-à-dire qu'on doit être des gens intègres. Tu ne peux pas prendre une partie de la Torah et la couper et dire ça, ça va, ça ne va pas. Pire que cela, quand les gens deviennent dans ce type de comportement, Ou au moins ils se mettent à critiquer ceux qui sont entièrement dans la Torah. Donc, non seulement, toi, tu es complètement faux, d'accord, tu crées une nouvelle Torah. Il y a un Rachid, non, Masechet Betsa, page 17, qui dit ça de façon extrêmement claire. Il dit quelqu'un qui fait une sorte de moitié-moitié, il amène trois problèmes. Un, il ne fera pas de tchouva, parce qu'il dit je fais bien. Deux, les gens apprennent de lui, parce qu'il est soi-disant un exemple comment on peut se comporter en tant que juif. Il ne dit pas, moi je ne suis pas religieux, ne me prenez, je ne suis pas un exemple. Non, je suis un religieux modéré. Les gens apprennent de lui. Et trois, dit Rashi, il change la Torah. Il crée une nouvelle Torah. Et c'est terrible. C'est terrible. J'ai dit que c'est écrit dans le verset, dans Zacharie 13, c'est marqué, par la fin des temps. Deux tiers du monde va disparaître. C'est-à-dire que deux tiers de la terre va disparaître. Marloket, divergence d'opinion entre les commentateurs, c'est quoi la terre? Il y en a qui disent la terre d'Israël, il y en a qui disent le monde entier. Et le tiers qui reste, je l'affinerai comme on affine l'argent et l'or. Utsraftim, Kitrof, Azav, Akesef. C'est quoi affiner? Tu prends une pépite d'or, d'argent, et là, elle t'abrute, il y a beaucoup de scories dedans. Tu prends un chalumeau, toutes les scories brûlent, reste l'or pur. Donc, le tiers qui reste, Dieu va le passer, l'affiner au chalumeau, à Chamishmor. Pourquoi? Parce qu'il est mélangé. Il y a du bien, il y a du mal. Il y a de la pépite, il y a de l'or, il y a de l'argent, puis il y a des scories. Et on ne peut pas laisser ça comme ça. On doit enlever tout le mal. Donc Dieu va s'occuper de ce qui est mal, il a déjà débarrassé. Ce qui reste, il va travailler pour qu'il n'y ait plus que le bien.
Quand vous dites deux tiers de la terre, c'est les gens ou c'est la vraie terre?
Non, c'est les gens. Les gens, ils sont bleurés. Ils sont bleurés. Maintenant, qui sont les gens concernés dans la communauté juive? J'ai dit, en Israël, grosso modo, tu as ou dedans ou dehors. En France, en Amérique, ou dehors ou dedans. Là, c'est français. Qui sont un vrai moitié-moitié. Bah, Baruch HaShem, il y a de l'or pur, de l'or, de l'or pas pur, de l'or, de l'argent, mais mélangé avec un peu de ci, un peu de ça. En Israël, dans les quartiers orthodoxes, c'est très connu. Même les orthodoxes françaises qui viennent, on sait, il y a le tsniout française, qui est tout à fait pas du tout adapté à la tsniout israélienne. C'est deux mondes, d'accord? Même les orthodoxes, déjà, c'est déjà... Alors je dis comme ça, je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est vrai, peut-être que oui, peut-être que non. Le mot « je les affinerai », ça se dit dans le texte « utseraftim », »,« je les affinerai ». Et on peut lire ça « utsorfatim », et les Français. Donc avis à la population, affinons-nous, nous, rapidement, comme je dis, à notre rythme, mais pas plus lentement, et pas plus vite non plus, parce que bientôt il y aura un dévoilement de vérité. Et là, tout ce qui n'est pas en phase avec la vérité ne pourra pas subsister. Baruch Adonai, Amen.